En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Oui, en l'occurrence, l'opéra dont vous parlez, Gourou, en fait, c'est sa création. C'est un autre opéra qui, d'ailleurs, était un opéra proche de la médecine, qui était mon premier opéra, qui s'appelle Joseph Merrick, dit Elephant Man. Cet homme qui souffrait de neurofibromatose, bien qu'on m'a dit que ça s'appelait aussi le syndrome de Proteus syndrome, et qui a été rejeté, qui était finalement un opéra sur l'exclusion. Là, c'est un opéra qui s'appelle Gourou, qui est sur la manipulation mentale, et dans le cadre d'une secte apocalyptique, c'est-à-dire avec, autrement dit, une super ambiance, parce qu'il y a 60 cadavres sur scène à la fin de l'opéra. Un vrai spectacle de Noël, croyez-moi. Il y a une seule personne qui ne meurt pas à la fin, et en l'occurrence, c'est la seule personne qui lui résiste, donc c'est la personne qui ne chante pas, mais qui parle, c'est une comédienne, et comme c'est un rôle que j'ai confié à ma femme, j'ai jugé quand même indécent de la tuer, même sur scène. Quoi que je vous dirais, donc jamais l'idée ne m'a effleuré, rassurez-vous, mais par contre, il y a un bonheur absolu, c'est qu'après 34 ans de vie commune, c'est quand même quand elle est sur scène et moi à la baguette, le seul moment où ma femme fait à peu près ce que je lui demande de faire. Et ça a tout de même quelques avantages, ça vaut le coup d'écrire un opéra uniquement pour ça, pour vous dire la vérité, parce que c'est assez. Alors, c'est vrai que ce qui est absolument passionnant, eh bien, c'est de voir un... On est à Szczecin, qui est donc une ville polonaise, qui s'appelle Szczecin, et qui a été allemande, qui est à 150 km de Berlin, et de voir des gens aussi curieux, ouverts, une troupe qui est complètement déchaînée à l'idée de monter ça. Et effectivement, Hugal sait ça beaucoup mieux que moi. C'est malheureusement, l'opéra, des fois, c'est très long. Il suffit qu'il y ait... une Annie Croft dans un projet, c'est prévu dans un opéra, le directeur change, le directeur d'après n'a pas la même idée, etc. Et vous vous retrouvez avec un opéra sur les bras, arrivé à ce moment-là à persuader un théâtre de le monter. Vous savez, les directeurs d'opéra sont des gens qui ont, faut les comprendre, ils ont souvent envie d'être à la base d'un projet. Ils ont envie d'aller chercher un compositeur, de lui dire « voudriez vous intéresser à ça ?» et ça. Et quand vous arrivez à un projet tout cuit, tout prêt, c'est plus difficile à vendre. Surtout quand ce sujet est aussi gai que ce que je vous ai décrit. Alors, donc c'est un moment très exaltant. Vous savez, la composition, c'est un phénomène de solitaire, véritablement. C'est une des grandes raisons pour lesquelles j'ai voulu aussi faire beaucoup de direction d'orchestre. Pas être un compositeur qui dirige un petit peu, parce que ça, pour les orchestres, c'est absolument insupportable, même si quand Stravinsky arrivait devant un orchestre pour faire le Sac du Printemps, l'orchestre voyait devant lui l'homme qui avait conçu ça, c'était formidable, mais après, il regardait le violon solo plutôt, parce que c'était pas vraiment un chef. J'ai voulu avoir la technique de direction de façon à emmener les projets vraiment jusqu'au bout. Et c'est à la fois passionnant et en même temps... encore une fois, mon cher Hugues me disait de temps en temps, tu devrais poser la baguette et il faut que ce soit un autre qui dirige. Et à la fois, il a raison, et à la fois, là, en ce moment, sur cette œuvre-là, je ne vois pas qui ferait plus que moi, parce qu'elle est dans mon cœur. Mais enfin, disons-le tout de suite, demain, Sir Simon Rattle tient absolument à diriger mon opéra, je lui passerai très volontiers, là, s'il insiste, je lui passerai très volontiers, là. Mais donc, vous êtes dans ces moments... qui là c'est un moment de réalisation, donc phénomène de solitude, et puis à un moment donné, les choses se concrétisent. Elles se concrétisent, et dans le cadre de l'opéra, ce qui est très spécial, c'est que le compositeur qui va avoir porté ça pendant 3 ans, qui a travaillé, au bout d'un moment, il n'est que spectateur. Mon confrère Philippe Persan, quand on a fait son deuxième opéra, le Moine Noir, je crois, en Allemagne, il n'avait pas le droit de venir aux répétitions. Il n'a pu venir qu'à partir, je crois, de la pré-générale ou quelque chose comme ça. Je le dis franchement, pour moi, ce serait impossible. J'ai besoin d'être là, de façonner. Voilà. Donc c'est là où le rapport entre le créateur et l'interprète est important. Il est important, mais il est à ce moment-là. Il ne peut tenir le coup que si, en tant qu'interprète, vous avez absolument les moyens de défendre votre pensée. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne faut pas passer le bébé à quelqu'un d'autre et voir une autre vision de ce que vous avez fait. Mais il faut quand même, si on veut interpréter soi-même ses œuvres, être à un niveau technique d'interprétation qui ne souffre pas de... Alors à ce moment-là, ce qui est très passionnant, c'est quand même, vous avez des musiciens en face, quand vous dirigez une symphonie de Brahms, vous pouvez dire, oh, tiens, je ne pense pas comme ça. Et j'étais d'ailleurs sidéré en écoutant récemment des différentes interprétations de la troisième de Brahms. Il y en a carrément une qui fait fa, do, la, sol, fa, do, et celle d'après fait fa, do, la, sol. Bon, on a envie de dire quand même. Tandis que, donc, vous avez des musiciens qui vont se dire, tiens, je ne le pense pas comme ça. Je n'ai pas envie d'aller dans cette direction. Mais je ne le pense pas comme ça, mais comme il a l'air de savoir ce qu'il fait, je vais quand même le suivre. Mais ce n'est pas mon idée. Tandis que quand vous dirigez votre œuvre, ils sont obligés de dire, bon, attends, celui-là, il l'a senti une fois pour toutes, hein, il est là, et puis... Et donc, ça vous donne un rapport très différent avec les musiciens, y compris par moments des choses qui les surprennent. Parce que, voyant la scène, par exemple, il y a des doublures, un moment de doublure, c'est-à-dire un instrument qui chante la même partie que le chanteur. Et puis, à entendre comme ça, c'est bien, mais finalement, avec le jeu de scène, etc., le chanteur qui ne va pas forcément me voir, et avec d'ailleurs un truc incroyable, incroyable, ils ont mis des nouveaux écrans, les écrans LED, sur les côtés, puisque vous savez, dans un opéra, sur les côtés, le chef a une caméra sur lui, et sur les côtés de la scène, des deux côtés, il y a des écrans, de façon à ce que, quand il joue, s'il ne regarde pas le chef, il peut le voir là. Et bien, la spécificité de ces nouveaux écrans LED, c'est qu'ils ont un quart de seconde de délai. Comme on l'a vu d'ailleurs sous la coupole récemment, ces fameux. Et donc j'avais sans arrêt des chœurs en retard, je ne comprenais pas pourquoi. Je regardais ma baguette frénétiquement. Et puis finalement, j'ai dit, est-ce que vous avez encore les vieux écrans? Oui, ben on va remettre les vieux écrans parce qu'au moins, ceux-là, ils sont bien. Et quand vous avez ces moments d'écalave et ces moments où vous reprenez le contrôle, alors là, ça a vraiment... C'est passionnant et vous sentez la jonction entre plusieurs choses et bien évidemment les musiciens qui sont devant vous. Alors à un moment donné, comme ça je vous dis, il y a une ligne de chant qui est en même temps que une ligne de chant et en même temps une ligne d'instrument. Et j'ai dit tout d'un coup, ben écoutez, non, là le cor anglais, on va supprimer, c'est pas la peine parce que le chanteur est de côté, il ne me verra pas, autant que le chanteur soit un peu libre. Et je dis, vous riez. Et les musiciens, ils ont l'habitude de jouer Verdi, donc on ne va pas rayer une note. Et j'ai dit, mais si, vous riez. Ils disent, mais vous êtes sûr? Je dis, oui, c'est moi, I am God, you riez. Voilà. Et donc ça fait comme ça des relations très amusantes.
Yves Polyka.
Oui, est-ce que maintenant l'enregistrement de l'œuvre que vous allez diriger vous-même ne va pas enfermer tous vos successeurs dans, je dirais, une imitation? C'est-à-dire supprimer en somme l'interprétation de ce que la portée de Brahms peut inspirer à trois directeurs différents.
Oui, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a même, pour moi, un piège par rapport à ça. C'est que, à partir du moment où cet opéra qui devait être fait à l'opéra de Nice, il y a eu ces changements à Nice et que ça n'a plus pu être fait à Nice, je me suis dit, le seul moyen de montrer cet opéra et d'inciter d'éventuels directeurs à le faire, c'est de l'enregistrer. Je l'ai donc enregistré avant qu'il soit venu sur scène. Ce qui était essentiel pour le vendre, mais maintenant je me rends compte qu'il y a certains réflexes qu'on se crée grâce à la scène et que je ferai probablement maintenant un disque différent de toute façon, simplement parce qu'on le joue sur scène. Vous savez, le grand cousin, le cousin de ma maman était un homme très étonnant qui s'appelait Daniel Guillet. Et Daniel Guillet était un violoniste extraordinaire qui avait fait un duo avec Nadia Boulanger, ils allaient jouer pour Chaplin, il a été dans le Quatuor Calvet, il a fait en tant que violoniste la tournée de Cigane avec Ravel qui dirigeait, il m'a dit que c'était quelque chose de surprenant, Ravel qui dirigeait, mais enfin là on est devant un tel génie qui pouvait bien être un mauvais chef, c'est pas important, et après il a fini sa carrière en ayant fondé le Beaux-Arts Trio, qui a été un des plus beaux trios qui soit, mais en 1937 il est parti aux États-Unis et il est devenu le violon solo de Toscanini, au NBC Orchestra. Et il m'a raconté deux choses où là, vraiment, c'est l'homme, il était là, quoi, contre Toscanini, à la fin d'une répétition, arrive Stravinsky. Et Stravinsky dit à Toscanini, c'est trop vite. Il était célèbre pour ça, Toscanini, il allait très vite. Hein. Et Toscanini répond à Stravinsky, je le sens comme ça. Et Stravinsky lui dit, oui, mais moi, je l'ai senti une fois pour toutes. Ce qui est en même temps une phrase terrifiante, parce que c'est la négation de l'interprétation. Je dois d'ailleurs vous dire que dans la séance de l'Académie des Beaux-Arts que nous avons de remise des prix, dans lequel le secrétaire perpétuel fait traditionnellement un discours, Eh bien, le thème que j'ai choisi, c'est précisément, c'est interpréter et créer. Et l'autre exemple qu'il m'a donné, c'est Ravel. Un jour, je crois que c'était le Boléro d'ailleurs, il dirige. Ravel lui dit, c'est trop vite. Toscanini dit, d'accord. Le soir, il le dirige encore plus vite. Ravel est arrivé et lui a dit, à Toscanini, devant Guillet, qui me l'a raconté, « Maestro, je vous interdis à jamais de jouer ma musique. » Et il est parti. Et à ce moment-là, Toscanini s'est penché vers Guillet et lui a dit, « Je m'en fous, c'est un génie, je le jouerai quand même. » C'est une jolie histoire.
Oui. Yves Pouliquen, donc vous, votre passion pour la musique, comment est-elle née et pourquoi l'avez-vous développée à ce point de vouloir aujourd'hui faire naître de jeunes talents dans ce domaine?
D'abord, vous m'avez flatté parce que vous comparez M. Petit-Girard dans, je dirais, le domaine de la musique à ce point. Je dois un correctif. Je vous dois un correctif, c'est que c'est vrai. J'ai écouté beaucoup de musique, non pas chez mes parents qui n'écoutaient pas, qui ne connaissaient pas la musique, étaient des gens très simples, mais il y avait au-dessus de l'appartement de chez moi un monsieur qui était un chef d'entreprise, mais qui avait été cor à l'opéra. Et toute la famille était dans la musique en permanence, que j'entendais de l'étage au-dessus, et il y avait la pianiste, un clarinettiste, une violoniste, et ce clarinettiste était mon ami. Et je dirais, c'était passionné par, je dirais, l'ambiance qu'il y avait dans cette famille, et on m'a dit, pourquoi tu n'apprendrais pas la clarinette avec nous? Alors j'ai dit oui, j'avais 6 ans, et on m'a donné une clarinette en mi. Et j'ai tellement aimé cette clarinette en mi que lorsqu'il y a eu la débâcle et que nous sommes partis, c'est la première chose que j'ai mis dans ma valise. Mais je dois dire que ça s'est terminé assez rapidement. J'ai participé tout de même j'habitais à Avranches. Avranches était une cité où il y avait alors un orchestre de 40 musiciens qui était dirigé par Ponty, qui était un homme très bien, qui était mon professeur de musique, et il m'a dit à 10 ans, tu rentres dans l'orchestre, tu es troisième clarinette. Et j'ai donc fait de 10 ans à 18 ans toutes les étapes du clarinettiste jusqu'à, exceptionnellement, de temps en temps, la solo. Mais ça s'arrête là. Et alors, je dirais que c'est une aventure qui a été très brève, mais qui m'a permis tout de même de m'intéresser à la musique toute ma vie. Et vous avez excellé dans le piano. Moi, j'ai remisé ma clarinette et je n'avais été qu'un moyen interprète. Voilà, c'est ça. Mais par contre, ça a influencé sûrement l'orientation que j'ai donnée à la Fondation Saint-Gerre-Polignac. J'ai hérité de la Fondation par hasard. Édouard Bonnefous m'a dit un jour, alors que je faisais partie du conseil d'administration, « C'est vous qui serez le prochain directeur. » J'ai dit, écoutez, je n'en ai pas vraiment les dispositions, moi je suis médecin. Il m'a dit, si, je sens que vous ferez de la fondation quelque chose de bien, etc. Et j'ai fait des choses qui, au début, l'ont beaucoup choqué. Il faut dire qu'il m'a laissé la présidence, il avait 99 ans. Oui, ce qui me laisse pour moi encore pas mal d'années, si je veux le limiter. Et il avait réglé surtout les missions de la Fondation Saint-Gerre-Polignac sur des colloques, avec quelques concerts auxquels j'assistais et dont j'ai le regret de dire qu'ils étaient moyens. Et lorsque je suis entré là, je me suis intéressé à la vie de Vini. Vinaretta Saint-Gerre-Polignac, fille Saint-Gerre, extrêmement riche, qui tint un salon musical. Elle était elle-même musicienne, elle était organiste, elle était peintre, elle était une femme de talent. Et quand on lit Proust, ou les gens qui s'intéressent à l'écriture sur la musique des salons actuellement, on s'aperçoit que Vinaretta a été parmi Madame Saint-Marceau, Madame Greffule, etc., la seule qui connaissait vraiment la musique et qui ne se moquait pas des musiciens. Et il me suis dit, pourquoi ce salon qui recevait quelques illustres personnes, dont Proust et quelques autres, Morand et compagnie, pourquoi ça ne deviendrait pas une institution comme un salon moderne, récent, républicain, qui suit la trace de Vini? Et comment faire? Alors, Yves Petit de Voise était travaillé, qui lui a vraiment un talent pour sélectionner tout ce qui est brillant dans les conservatoires européens. Avec lui, nous avons décidé de faire une résidence. Et là, nous avons commencé avec 3 résidents. Maintenant, nous en avons 34, à peu près 20 résidents et 14 artistes associés qui sont en général des anciens résidents, parmi lesquels Quatuor Eben, les Capucons, Renaud Capucon, Jarulski, etc., Stoutman.
Qu'est-ce qu'un résident ?
Alors, un résident, c'est un garçon qui a été sélectionné, repéré, avait beaucoup de prix de conservatoire, de grands talents. Il a en général 18 ans, 19 ans, il sort du conservatoire. Et nous lui proposons un contrat de 2 années sur un projet musical précis, que ce soit soliste, que ce soit musique de chambre en général. Et à ce moment-là, si ce projet tient, si finalement la vie musicale est favorable, nous lui donnons 2 ans de liberté dans lesquels il vient autant de jours qu'il veut, 365 jours par an, car j'ai ouvert la fondation qui n'était ouverte que de 40 jours par an, 375 jours par an, 365, pardon, n'ajoutons pas 10, ça serait trop.
Sinon, c'était très fort.
Oui, oui, c'est très fort, mais on vivrait plus longtemps.
Oui.
Voilà, bon. Et, et ils viennent de 8h du matin à 8h du soir répéter. Au début, il y avait une salle de répétition. J'en ai fait 6 et nous avons une moyenne de fréquentation de ces gens, tous sélectionnés, de 35 par jour, avec des journées où il y a 90 musiciens qui répètent dans ces salles de répétition. Et je dois dire que, au cours des années, ça fait 12 ans que je préside cette fondation, au cours des années, les victoires musicales sont fréquentes. Nous avons tout de même chaque année le bonheur de voir un ou deux Belhomme, Marguin, Cadouche, etc., Maloum, enfin, tous, qui sortent et qui s'installent vraiment dans une carrière que l'on espère durable, car c'est peut-être là un peu l'arrière-pensée qu'on a lorsqu'on favorise, je dirais, aussi aisément le travail de certains d'entre eux. Il n'y aura qu'une proportion assez faible qui réussira. Mais nous espérons en tout cas que chaque année, le maximum de nos résidents accèdent par leur talent au stade d'artiste associé.
Mais vous savez, c'est très intéressant parce que, faisant partie du jury de la Fondation Banque Populaire, qui est un peu sur le même principe, de deux années. On voit les dossiers qu'apportent ces jeunes musiciens et vous repérez déjà tout de suite celui qui arrive avec un projet musical et celui qui vous demande une bourse pour pouvoir aller passer des concours. Même si passer des concours fait partie un peu d'un parcours presque obligatoire, quoique on en connaît qui ne l'ont pas fait et qui ont très bien réussi, mais quand même, on voit bien là les approches. Et vous savez, on se rend compte quand même d'une chose fondamentale, et c'est pas parce que vous parliez de mon activité de pianiste, elle a été beaucoup plus réduite. J'ai eu un duo avec un grand violoniste américain, Eric Friedman, mais il n'y a rien à faire. Je n'ai pas, quand j'avais entre 10 ans et 16 ans, passé les 7 heures par jour ou 6 heures par jour sur l'instrument qui vous donne cette espèce d'abattage absolu. J'avais la chance d'avoir un père génial, ce petit Gérard, qui était un très grand professeur, qui m'a donner la patoune, qui m'a permis de faire des choses rapidement, évidemment encore beaucoup plus à l'aise dans ma propre musique parce qu'elle est un peu écrite pour la main, mais je n'ai jamais été dans une salle de concert pour jouer un programme s'il n'y avait pas une de mes œuvres dedans, et j'ai jamais été à jouer 24 études de Chopin, c'est pas la même chose. Mais vraiment, il y a fondamentalement quand même quelque chose de différent, c'est que quand vous êtes compositeur, vous êtes confronté à la page blanche. Alors cette page, elle peut être blanche ou elle peut être légèrement teintée. Vous écrivez un concerto, vous écrivez une symphonie, la page est blanche. Vous écrivez un poème symphonique, elle a déjà le parfum du climat, de l'histoire de ce fameux poème. Vous écrivez un opéra, alors elle va être basée sur un livret avec lequel vous avez participé. En général, vous en avez envisagé quand même le squelette pour la dramaturgie. Après, Après, en tout cas, moi, j'ai besoin d'aller chercher quelqu'un qui a un sens des mots, qui a un sens du rythme. Je trouve que certains compositeurs que je respecte beaucoup, mais n'ont pas gagné en voulant à tout prix écrire eux-mêmes leur livret. Parce qu'il y a tout d'un coup une telle force dans une phrase. Et donc le compositeur, là, la pave n'est plus blanche, parce que les mots ont déjà leur propre rythmique et vous entraînent. Mais néanmoins, le créateur, il part de rien ou presque rien. L'interprète, quand il a un moment de doute, quel qu'il soit, il peut toujours s'appuyer sur le génie des grandes œuvres qu'il est en train de jouer. Et vous savez, cette notion de pouvoir s'appuyer sur quelque chose de très fort. Souvent, on me disait, mais dis donc, quand tu vas diriger le Sac du Printemps ou Daphnis et Chloé, tu rentres à la maison, est-ce que tu as vraiment envie d'écrire quand il y a eu des choses aussi magnifiques? Et quitte à paraître horriblement prétentieux, j'ai toujours dit non, quand vous allez diriger des musiques comme ça, c'est sublime, mais en même temps, il y a une telle force, vous dites, après tout, c'était des hommes, fous-toi au boulot, voilà. Bon. Ce qui est beaucoup plus angoissant, c'est quand, n'allez pas chercher Beethoven, Debussy, ou qui vous voulez, quand dans votre propre musique, quand dans ma musique, je sais qu'il y a 20 secondes, soyons raisonnables, 20 secondes là, bien réussi, et j'ai envie de me dire... Va pas chercher Ravel, essaye déjà d'être au niveau de Petit Gérard ce jour-là, parce que tu n'y es pas toujours, mon grand. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant en même temps, et en même temps, c'est stimulant. Mais il y a vraiment ce moment où la chose va naître. Et alors, vous avez dans ce processus de création quelque chose qui est très intéressant, c'est est-ce qu'on peut forcer l'inspiration ? C'est-à-dire, moi j'ai toujours pensé que l'inspiration, ça consistait à être en contact bien avec une énergie qui est autour de nous en permanence. Et quand on dit qu'on est inspiré, c'est simplement est-ce qu'on arrive à se rendre disponible à cette énergie ou pas. Rappelez-vous cette magnifique phrase de Mozart qui disait « L'inspiration, c'est comme les petits-enfants, il faut la mettre tous les matins sur le pot. » Et il y avait bon. Et donc, pour moi, par exemple, compositeur, à un moment donné, quelque chose va être le déclic. Je regardais l'autre jour en entendant ces magnifiques Gaspard de la Nuit de Ravel, et quand on lit les poèmes d'Aloysius Bertrand, qui sont d'une nullité, mais le Gibet par exemple, on se dit qu'est-ce qu'a lancé Ravel là-dessus avec le pendu. Et je pensais à ça à cause de votre cloche. Est-ce que vous pouvez la refaire tinter, votre petite cloche? Bon, alors, si mon oreille est encore à peu près pas trop foutue,
Non, pas du tout, etc.
Ah bah non, mais on va pas... Sans quoi, ça ne s'arrête plus. Non, mais on aurait volontiers joué en entier, mais on ne s'arrête plus. Il y a là, à ce moment-là, on rentre dans la notion de ce qu'on pourrait presque appeler la musique à programme. Et là, le programme, il est simple, c'est que Ravel a imaginé le pendu qui est comme ça, qui bascule. Et les deux si bémols qui arrivent en permanence, en octave ou pas, et qui représentent le basculement et toutes les harmonies qui évoluent. Ça, c'est à un moment donné, c'est un processus de composition. Je suis sûr que vous n'étiez pas loin, petite cloche, simplement elle est un quart de ton un tout petit peu bas.
Elle a changé. Le processus de création que vous avez décrit il y a un instant, je le trouve passionnant parce que vous dites très bien que la page n'est pas blanche. Et comment est-ce que les choses ont qu'est-ce qui a marqué, par exemple, que on passe de la de la musique royale, Lully, Purcell, etc., qui fait qu'à un moment donné, on va avoir Mozart, Beethoven, et puis ensuite, ce sera Brahms et nos musiques du XXe siècle. Et vous, quel est votre style là-dedans ? Parce qu'il y a le style des opéras, et puis il y a ce que vous avez écrit aussi pour un certain nombre de films. Or, quand je regarde les films que vous avez illustrés par la musique, c'était quand même Otto Preminger, Jacques Demy, Francis Giraud, Peter Kassovitz, Pierre Schoendorfer, Pierre Garnier de Fer. Pour Schoendorfer, c'était quoi ?
Alors, Schoendorfer, c'est son dernier film qui s'appelait Un roi là-haut sur la montagne.
Ah,
c'était,
oui,
c'était très émouvant parce qu'il avait été recherché, Jacques Perrin, Kremer, tous les gens. Alors, c'est drôle parce que j'étais en train d'écrire la musique des Maigret, dans lequel il y avait Kremer. Et puis, il fait ce film, et j'écris. Et Bruno me dit, ah ben non, je t'ai pendant toute la série, je vais faire un film, et c'est encore toi. Et c'était très, très amusant, parce que c'était une des semaines les plus folles de ma vie, à savoir que nous avons, c'était en 2002, nous avons la même semaine enregistré la musique du film, dans les 10 jours, la musique du film de Pierre Schoendorfer, un épisode de Maigret, et c'était la création d'Elephant Man à Prague. Et on faisait tout ça à Prague. Et ça avait un côté...
Et tout ça, c'était du petit Girard.
Oui, oui, n'est-ce pas ? Mais la question que vous posez, c'est très étonnant. Prenez par exemple Debussy et Ravel, qui se suivent donc de peu, puisque Debussy est né en 1862, Ravel en 1875. Il va y avoir, et notamment dans toute une... Pour toute une direction de la musique, y compris d'une forme d'avant-garde, on va vouloir dire Debussy est un précurseur et Ravel est une sorte de génie, mais de génie presque fermé. Et en fait, le problème, c'est qu'on s'en fout. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Vous savez, j'ai souvenir de quand en 62 ou 61 a été créé finalement à la Scala, le dialogue des Carmélites, je me rappelle, parce que j'avais 11 ans, 12 ans, et j'avais très marqué par une réflexion d'un membre du domaine musical qui avait dit « Comment est-ce qu'on peut écrire de la musique comme ça 50 ans après le sac du printemps ?» Ben, je veux dire, maintenant on est un siècle après et on s'en fout complètement de savoir quel est le rapport de ça. Il reste simplement que le dialogue des Carmélites est un des opéras français les plus joués dans le monde, je crois, juste après Péléas, et qui est au moins autant. On sait tous aussi qu'il n'est pas parfaitement orchestré à 2-3 endroits et que ça couvre un peu les voix. C'est rassurant, parce que vous savez, quand vous composez, il n'y a rien de plus rassurant que d'entendre dans des œuvres de grands génies, à un moment donné, un truc légèrement raté. Ça fait du bien, ça fait du bien, ça rassure, on se sent, on sent. Et y a, alors, pour moi, la vraie révolution, ce qui est extraordinaire dans Debussy, c'est l'abolition de la notion de mesure. Alors, en voilà un. Vous pouvez envisager, par exemple, les danseuses de Delphes, vous pouvez penser... Vous pouvez penser... Ça reste Debussy, parce qu'il y a cette évidence. Vous n'allez pas vous permettre de faire avec le tombeau de Couperin. Non, il n'y a rien à faire, il y a un tempo. Et là, il y a une différence fondamentale. Enfin, sauf pour Selimidache qui, lui, jouait tout trop lent et trouvait ça génial. Mais c'est autre chose. Mais je veux dire qu'il y a un moment donné dans l'évolution de la musique. Alors, vous avez des cas très particuliers. Par exemple, l'opéra, puisque c'est un peu mon sujet en ce moment, pardon, l'opéra présente un problème, c'est que pour un compositeur, c'est devenu un statut. Vous avez des compositeurs qui ont écrit des opéras, des compositeurs qui n'ont pas écrit d'opéra. Quand un compositeur écrit un opéra, c'est aussi un moyen d'abord d'avoir, de par la mise en scène, de par l'histoire, de rendre des fois accessible un genre musical qui, strictement en tant que genre musical, aurait été un peu abrupt, mais tout d'un coup il est pris dans l'ensemble d'un spectacle, avec le bonne idée, le grand S à spectacle. Mais, et de rompre un peu la solitude du compositeur, de faire une collaboration, très bien. Le problème, c'est que de par ce statut,
ça incite des compositeurs qui n'ont pas un langage qui correspond à la voix, qui ne sont pas fondamentalement des amoureux du chant, qui n'ont pas envie des grandes lignes de chant, à écrire quand même un opéra, parce qu'il faut écrire un opéra. Et moi, j'ai entendu quelques œuvres de compositeurs tout à fait estimables quand ils écrivent instrumental, mais alors avec des partitions inchantables pour les chanteurs, on les voyait les pauvres, etc., et ne donnant pas ce résultat. C'est-à-dire qu'il y a quand même, pour moi, dans l'opéra, la nécessité d'un discours, la nécessité d'une relation avec la voix humaine, la nécessité d'un chemin, d'un parcours, et qui des fois m'a un peu surpris. Mais dire pour autant, vous donner les clés de ce qu'a été l'évolution de la musique, elle est faite au fond, comme vous le dites, d'évolution. On a appelé la première symphonie de Brahms la dixième de Beethoven, hein, parce que il y avait et c'est vrai que quand on entend ce thème dans le final. Et là aussi la musique chante. Hein. Donc vous êtes devant un art qui évolue, puis qui a des basculements. Et alors certains de ces basculements, puis un jour il y a le marteau sans maître et la musique croit changer.
Oh. Alors Yves Poliquin, vous-même, vous avez
justement
dit
le marteau sans maître, je l'ai fait répéter chez moi par Pierre Boulez.
Ah ben alors là vous faites très fort.
Et oui, j'ai fait répéter chez moi par Pierre Boulez qui avec le balcon et Maxime Pascal a accepté de venir. Je connaissais bien Pierre Boulez pour d'autres raisons, et je lui ai dit, on produit cela chez moi ce soir. Il m'a dit, je viens.
Et ça ne m'étonne pas, c'était un homme à la fois très curieux. Oui,
et à ce moment-là, il a dit, écoutez les enfants, on va répéter, et puis après on va reprendre. Et c'était, j'ai enregistré en cassette complet.
Ça, ouais. Je peux vous dire, c'est un trésor que vous avez.
Voilà,
c'est
un trésor, voilà.
J'avoue ne pas être du tout sensible à l'art de Pierre Boulez, mais il faut lui laisser que, par rapport à tant de compositeurs qui font des choses apparemment très compliquées qu'ils n'entendent pas toujours, lui, il en fait tout entendu,
oui,
tout contrôlé.
Tout.
C'est-à-dire
oui.
que c'est une pensée...
Oui,
voilà. Simplement, c'est passé comme souvent dans la vie, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un de très important devient très intolérant, et c'est dommage. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que, à quelques, même si vous avez 20 ans d'écart, 30 ans d'écart dans ces générations, 30, 20, 15 ans, et puis le même âge, Shostakovich est rentré dans le répertoire, Britten est rentré dans le répertoire, Dutilleux est en train de rentrer dans le répertoire, Messiaen est dans le répertoire.
Je voulais vous poser une question. Vous avez commencé à composer à quel âge ?
Alors ce que j'ai retrouvé de plus ancien dans des papiers, c'est une œuvre qui très modestement s'appelle « Trois relations pour flûte et piano ». Et j'avais 7 ans. Et faut savoir que mon frère aîné, Grand Prix de Rome, Alain Kremski, a 10 ans de plus. Donc Alain était pour moi l'exemple absolu et j'étais fasciné. Ensuite, j'ai retrouvé un poème qui s'appelait Convergence, que j'avais écrit quand j'avais donc 10 ans, une musique d'un de mes amis qui s'appelait Jean-Pierre Lantin, qui malheureusement est décédé maintenant, qui était une jolie plume. Et donc, je converge, je diverge, je subverge. Enfin, à 10 ans, il écrivait ça. Moi, j'avais écrit un truc un peu comme ça. Ensuite, j'ai retrouvé à 13 ans trois préludes pour orchestre que j'ai apportés à Darius Milhaud. Donc 62, 63, oui, ça, à Maas Millau, dont je me souviens simplement de deux choses. La première, c'est qu'il m'a mis juste sur son fauteuil, là, comme ça, et il m'a dit « Alors, cher confrère ». Et ensuite, j'ai souvenir qu'à mon sens, il m'a dit que je n'étais pas d'accord. Enfin, bref, etc. Et puis, dans des œuvres sur les choses vraiment... vraiment sérieuse, c'est à partir de 17-18 ans, et puis j'ai aussi donc très jeune écrit des musiques de films. Vous parliez de... Alors là c'est amusant, parce que dans le cinéma vous avez tout d'un coup des connotations. Preminger voulait une sorte de musique qui, ça commençait, on voyait un port de très loin, il voulait un piano, il voulait que le piano soit l'instrument sonore, puis je lui ai proposé qu'il y ait des grandes basses, alors c'était de mémoire, c'était une musique, on est dans la musique de film, et notamment un entraînement aussi dramatique par rapport à la progression dramatique. Et je dis très sincèrement, ayant composé deux opéras en préparant un troisième, le fait d'avoir fait beaucoup de musique de film m'a incontestablement servi pour la progression dramatique à l'intérieur de ça. C'est un deuxième avantage, c'est que vous savez, regardez, si je n'avais pas enregistré mon opéra, j'ai composé de 2006 à 2009, Gourou, là, qu'on fait maintenant, et je l'entendrai pour la première fois à l'orchestre. Déjà, quand je l'ai entendu à l'orchestre, le premier acte, ça fait 5 ans que je l'avais écrit, au moment où on l'a enregistré. La musique de film, vous orchestrez, et la semaine d'après, vous êtes en train d'enregistrer. Donc c'est une sorte de correction automatique. Ça vous donne une matière et une réactivité qui est importante. Par contre, l'énorme danger de la musique de film, il n'est pas du tout comme on peut penser stylistique. Bon, parce que là, il y avait Rachmaninov, ma muse, et puis moi, j'ai oublié, je retourne vers ma musique. Le vrai danger de la musique de film, il est dans le souffle court. C'est-à-dire que vous prenez l'habitude d'écrire des musiques qui font 30 secondes, 15 secondes, 1 minute. Quand vous avez 2 minutes 30 ou 3 minutes sur un générique, c'est extraordinaire. Et donc, vous ne développez plus jamais. Et des confrères que je respecte beaucoup, que j'admire beaucoup, auxquels je dis « faites attention hein, !» Preminger m'avait proposé de m'aider, de m'installer à Hollywood. Et je me rappelle lui avoir dit « Je vois ce qui est en train d'arriver à Georges Delru, j'ai vu ce qui est arrivé à Maurice Jarre, j'ai pas envie de faire la même chose. J'ai envie de rester un compositeur qui écrit de la musique symphonique, de chambre, concertante, et puis dont la musique de film est une forme de liberté, ça me permet aussi d'être mon propre mécène, ce qui est toujours beaucoup plus pratique. Allô Laurent, est-ce que tu pourrais financer ça? Oui, s'il te plaît, oui, d'accord, je me raccroche, et j'appelle la banque. Bon, ça, c'est plus facile que d'appeler un copain, vous voyez. Et ça donne une forme de liberté, et c'est une branche d'activité. Et quand je vois des confrères, je leur dis, mais écrivez une œuvre pour le concert. Et qui se mettent à écrire une œuvre pour le concert, ils ont tous le même problème de développement. Ils ont pris l'habitude de segmenter. Et c'est ça, le souffle court, c'est le grand danger de la musique de film. J'en ai fait beaucoup,
j'en fais plus, ça a été un grand bonheur, maintenant ça ne me manque pas, sauf si un jour il y a un très beau brevet qui arrive, mais sincèrement, si c'est pour faire une musique pour un de ces, le Xème Polar, avec toutes les contraintes qu'on voit maintenant, les synthétiseurs, les trucs, ça m'intéresse.
Alors, question à Yves Pouliquen, après ce que nous raconte Laurent Petit-Girard, c'est, et vous ? Quels sont vos choix ? Quels sont vos goûts ? Vous êtes un grand amateur d'opéra, vous êtes un grand amateur de concerts classiques. Vous avez dit tout à l'heure, entre parenthèses, à un moment donné, que vous aviez jugé tel concert très moyen, etc. Donc, ça veut dire que depuis longtemps, votre oreille est faite à ce qu'on appelle la grande musique, bon, bref, la musique classique. Mais à l'intérieur de la musique classique, comment vous êtes-vous orienté ?
Bien, comme tout le monde, j'ai écouté tous les grands classiques, bien sûr, et je les ai réécoutés, certains même d'une façon presque toque, compulsive. Je connais presque dans l'oreille Mahler, du début jusqu'à la fin, toutes les œuvres. Bon, voilà, mais il n'est pas le seul. Et ce que j'ai surtout appris, je dois dire, au fil des temps, c'est à lire. Et quand j'ai dit lire, c'est écouter la musique, note par note, séquence par séquence, et ça, si on ne sait pas le faire, on écoute la musique lointainement, et je dirais que la délectation qu'apporte la musique lorsqu'on l'écoute comme ça, lorsqu'on apprend à l'écouter, est une vraie merveille. Et là, je dirais qu'on peut être éclectique, et par exemple, qu'à la Fondation, on prenne des Italiens, le baroque, et on va jusqu'à la contemporaine. Et grâce à vous, cher ami, je ne suis pas imposé au tarif ordinaire, mais je suis considéré un peu comme un conservatoire pour la SACEM. Pour ça, c'est grâce à vous, et je vous en remercie beaucoup. Donc, je dirais que je veux volontairement, si vous voulez, un éventail, car je goûte l'éventail. Et j'offre au début du festival de Deauville à Pâques un concert gratuit alors que tous les autres sont payants, et je produis en plus deux ou trois autres, mais les autres sont payants, un concert gratuit sur la musique contemporaine exclusivement. Et on m'a dit, vous êtes fou, il ne viendra personne. Au début, il est venu 40 personnes, maintenant il y a 300 personnes, et j'ai fait l'année dernière Ligeti, qui a été finalement une découverte pour tout le monde. Et quand on passe du grand classicisme à la musique contemporaine, quand on a appris à lire, c'est-à-dire à écouter la musique temps par temps, c'est-à-dire, et qu'on goûte à ce moment-là vraiment cela comme un roman, hein, comme un roman, avec même encore plus de choses que le roman, parce que c'est indicible, que même l'écriture ne peut pas donner, eh bien, c'est un tel bonheur que, on n'arrête pas. Et je dirais que le fait que je produise maintenant 35 à 40 concerts par an à la Fondation, avec tous mes résidents ou les artistes associés, sous la forme de 9 concerts de saison, où je paie les résidents, parce que ça leur donne de l'argent, je les abrite, donc c'est déjà sur le plan un cadeau important, mais je les paie comme des artistes au tarif normal, et eux-mêmes me proposent, au-delà de ces 9, c'est-à-dire 20 fois ou 30 fois, disent voilà, on est en train de préparer telle chose, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se produise ? Sous-entendu, le produire, ça me coûte quand même de l'argent, et à ce moment-là, je leur accorde le bénéfice de cette production. Et par exemple, la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi, on commence l'équateur de Beethoven avec l'équateur Girard, et c'est déjà écouté, c'est un régal pour 3 jours, 3 soirs de suite. Voilà, bon, ben, quand j'ai dit ça...
Vous parliez de Ligeti tout à l'heure, vous l'avez connu ?
Non, moi je ne l'ai pas connu, mais
parce que Ligeti est arrivé une anecdote extraordinaire à l'Opéra de Paris lors de la création du Grand Macabre. Oui. C'est que c'est Daniel Mesguich qui avait fait la mise en scène, qui était tout jeune, et Il y a eu, par rapport à des enceintes qu'il y avait dans le... Parce qu'il y avait quelques renforts électroacoustiques, mmh. il y a eu un grésillement qui a commencé à être gênant, et tout d'un coup, le public a vu un homme se lever en disant « C'est un scandale !» et crier parti.
C'était
et tout le monde a cru que c'était dans la mise en scène de mes films. alors qu'en fait, c'était Ligeti furieux qui s'en allait parce qu'il avait quand même un,
oui,
avait
oui.
quand même un caractère.
Ah oui, 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 il a eu de vie aussi tellement, tellement oui. terrible.
Il a d'ailleurs fait un procès à Kubrick. Alors que franchement, le 2001 Odyssée de l'espace, c'est ce qui a fait découvrir Ligeti pour 90% des gens. Hein.
Oui, mais, oui, mais écoutez, cette découverte, à chaque fois, on peut être surpris, on peut être énorme, mais on réécoute. Oui. Et il y a toujours, tout de même, dans l'œuvre d'un musicien, quelque chose de si profond à trouver, qu'il faut essayer de le trouver. Voilà.
Alors, dites-nous un peu, chacun à votre tour, si je puis dire, ce que... la musique apporte et pourquoi elle compte tant dans une société.
Bien, je crois que j'ai dit pour moi, je pense que pour les autres aussi. Et je regrette, si vous voulez, qu'il n'y ait plus l'enseignement qu'il y avait à l'école autrefois, puisque moi j'ai commencé à apprendre le solfège à 6 ans. Mmh. J'ai été donc... intégré dans la musique très tôt, dans le dessin aussi. J'ai passé le concours général de dessin, donc on était capable, quand on était un petit garçon à l'école, d'apprendre la musique, d'apprendre le dessin, et déjà d'être dans une chorale, ce qui n'est pas bête, l'idée de la chorale hein, de M. Planquet. Lorsqu'on est lié à la musique, on s'aperçoit que c'est une dimension qui vous apporte quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, au début, il est très mystérieux, on a du mal à interpréter. Puis après, on dit que c'est le complément indispensable à la compréhension, je crois, de notre existence, sachant, bon, ses limites. Mais je crois que c'est quelque chose de fabuleux et que vivre sans cela, ben, c'est dommage. J'essaie aussi de mes concerts hors les murs de la Fondation Saint-Germain Polignac. Pourquoi j'en fais ? J'en fais trois maintenant. J'en fais un à Venise dans 15 jours. Gratuit. Car je veux, comme en Allemagne, je voudrais, comme en Allemagne, qu'il y ait des concerts gratuits pour que les gens viennent. Et tous les concerts que je fais à Paris hors les murs sont des concerts ouverts à 400-500 personnes gratuitement. Et je pense que comme on leur donne à ce moment-là une musique de qualité, je pense qu'ils ne peuvent pas sortir indifférents.
Alors il faudrait qu'ils payent s'ils sortent. Moi je suis pour les concerts gratuits, mais si vous sortez, vous payez.
Ah oui.
Vous sortez avant la fin.
Ah oui.
Et vous savez qu'il y avait un compositeur complètement barjot il y a une trentaine d'années qui avait loué la salle Gaveau et le type écrivait une musique absolument monstrueuse. Et alors, la salle était... Il avait dit qu'il donnait à l'époque, je ne sais plus, c'était 10 francs, vraiment, et donc la salle était remplie à moitié des clodos du coin, des gars qui avaient, puis d'autres personnes un peu curieuses. Mais c'était tellement monstrueux que même les codos rendaient les 10 francs pour parler. Et moi, j'ai le souvenir le plus abominable qui m'est arrivé. Alors là, je vous assure, terrible, je dirigeais l'Orchestre Symphonique Français. Et il y avait un guitariste qui, de talent, qui en plus avait l'énorme avantage pour un orchestre privé d'être soutenu par une grande marque de café italienne. Et qui donc m'a proposé de venir jouer le concerto d'Ennio Morricone. Très bien. J'ai dit bon, très bien. Et donc, je me suis retrouvé dans la loge d'honneur de Gaveau avec Ennio Morricone à ma gauche. Et un public qui n'était pas du tout le public habituel de mon orchestre, qui était vraiment un public de genre, de musique de film. Or, il se trouve que Ennio Morricone, en dehors de la musique de film, a écrit une musique à côté de laquelle la musique de Pierre Boulez est une berceuse pour petit enfant de 3 ans. Vous n'imaginez pas ce qu'est, même Luigi Nono, compositeur, c'est, mais la musique de... comme ça. Et alors, le truc commence, et le concerto commence avec les guitares qui font... les musiciens qui... et je vois petit à petit vous savez, la tête des gens qui commence à baisser et puis au bout de 10 minutes j'en vois un qui part puis deux qui partent, puis avec et la moitié de la salle s'est vidée
Morricone était mais fou de rage, il ne m'a plus jamais adressé la parole depuis. D'ailleurs, je m'arrange, je change de trottoir. Parce que, vous voyez, et là, c'est très étonnant parce que les gens étaient venus vraiment sur une image. Quoi.
Oui, bien
et,
sûr.
Et il y a quelques compositeurs comme ça, Kilar, le compositeur polonais, sauf que lui, il a eu une grande crise mystique à la fin de sa vie. Alors, il est parti sur des grandes œuvres plus chorales. Mais il avait aussi une musique comme ça qui correspond. Avait un hiatus complet. Et c'est très très intéressant parce que quand vous prenez Prokofiev et Shostakovich et que vous voyez les musiques de films de Prokofiev et de Shostakovich, c'est du Shostakovich, c'est du Prokofiev. Ils sont restés dans leur langage. Ça qui est assez intéressant. Parce que dans d'autres cas, il y a des ruptures totales. Mais pour répondre à votre question sur la musique, puisque là j'ai fait plus fort que vous, moi j'ai appris le solfège avant d'apprendre l'alphabet. C'est-à-dire que mes parents sont partis du principe que c'est une symbolique plus forte. Et donc à 3 ans, je maîtrisais le solfège et du coup j'ai appris, on devrait faire ça, on apprend l'alphabet beaucoup, beaucoup plus rapidement. Et pour moi, la musique a cette chose, c'est qu'on dépasse la notion de l'intellect et on s'adresse directement, alors on oui. s'adresse aussi à un intellect, mais on s'adresse à d'autres formes, à d'autres centres, et surtout, elle nous donne cette possibilité que dans un monde où bien tout est là et on est très très matérialiste, ou bien alors on est dans les étoiles et on ne sait plus très bien où on est, la musique vous permet d'avoir le sens du vide, le sens de l'espace, tout en étant sur une base et sur une force et sur une technique très forte. Et à partir de ce moment-là, c'est un voyage au fond. Qu'est-ce qu'on demande aux grandes émotions qu'on veut avoir dans nos vies? C'est de voyager. Et la musique est un extraordinaire voyage. Et je suis vraiment triste maintenant de voir que dans des musiques beaucoup plus populaires, hein, alors... n'allons pas chercher ce qu'on appelle la grande musique, même si ça ne veut rien dire, mais dans des musiques beaucoup plus populaires, la notion même de musique a disparu. C'est-à-dire, le rap, c'est de la non-musique.
Oui,
c'est un discours, ça correspond à des choses de société, mais au moins, la chanson française, ou ce que vous voulez, il y avait encore le jazz, bien sûr. Là, tout d'un coup, il y a une sorte de brisure. Et je crois que ça explique, il y a aussi un problème sonore, alors d'entendre des choses tellement fortes qui font que, au lieu qu'il y ait l'effort d'aller vers la scène, c'est l'inverse. Et je sais que j'étais, il n'y a pas si longtemps, je dirigeais en Corée, et il y avait le prélude à la prémisse d'un faune. Et le flûtiste commence à jouer ça, mezzo forte, il me dit, vous savez, je suis tout seul dans la salle. Je dis, et alors, si vous le faites pianissimo, tout le monde va faire ça. Mais en plus, si vous le faites pianissimo, vous allez faire toute la phrase sans respirer. Je dis non, toute la phrase sans respirer, c'est pas possible. Je dis si, moi je fais comme ça. J'ai demandé à Michel Debost, le grand flûtiste, qui était le flûte solo partout, d'ailleurs un peu partout, et à l'Orchestre de Paris, j'ai dit Michel, qu'est-ce que je dois dire à un flûtiste? Parce que moi j'ai envie d'entendre cette phrase d'une seule traite, et du coup en plus comme ça je suis sûr que ce sera pianissimo. Il me dit, tu lui dis de prendre beaucoup d'air et de ne pas souffler du tout. Évidemment, une technique comme une autre, et donc vous voyez les gars, mais je trouve passionnant de ces actions que nous avons dans la vie, et la musique évidemment pour moi la première, qui nous permettent comme ça d'avoir un vertige contrôlé. Voilà. Au fond, vous me demandez qu'est-ce que c'est la musique, c'est le vertige contrôlé qui nous permet d'oublier qu'il y a le contrôle et qui nous permet de... Mais si le contrôle n'était pas là, tout se casserait la figure. C'est quand même une école en même temps de rigueur. C'est une école de pensée. Quand vous faites faire de l'orchestre ou de la chorale à des jeunes, vous les obligez à s'écouter. Quand vous êtes devant un orchestre et qu'à un moment donné, des choses ne fonctionnent pas, là où je vois certains de mes confrères... martelé, moi je fais exactement l'inverse, je dis j'arrête de jouer, essayez de le jouer sans moi. À ce moment-là, le seul moyen de le jouer sans moi, c'est de vous écouter. Et à partir du moment où ils s'écoutent les uns les autres, ça change tout. Bien, c'est en ça qu'on peut apporter beaucoup de choses.
Ça évoque pour moi aussi une image. C'est Julien Green qui disait, toutes les pensées que j'ai simultanément dans ma tête, si je devais les écrire, ce serait une bibliothèque. C'est en pensant écrire la musique. Est probablement l'une des façons de rassembler aussi beaucoup de pensées la pensée de l'homme qui est en permanence agité par plein de choses, etc. Je pense que la pensée, la musique essaie de rassembler tout ça, et c'est ce qu'on perçoit lorsqu'on écoute vraiment, vraiment la musique.
Oui, et c'est ce qu'on voit quand on voit un grand danseur. Le fait de rassembler toute l'émotion avec en plus son corps.
Ah, oui.
Et c'est la raison pour laquelle, avec mon camarade Hugues, nous nous sommes tant battus pour qu'il y ait une section que la danse rentre à l'Académie des Beaux-Arts. On en est très fiers. Hein, si on avait dû être élu uniquement pour ça, ça valait le coup. Hein, et parce que c'est un moment important. Et alors, parce que je crois qu'on arrive au bout, mais il y a quand même une question qui m'intéresse énormément, qui est profondément musicale, connaissant votre technique. Comment se fait-il que la pommade Maurice, qui est cette chose merveilleuse qui coûtait très peu, qui permet de soigner la blépharite, n'existe plus, ce qui fait que j'ai maintenant des croûtes dans les yeux?
Écoutez, là vous me posez une question professionnelle, mais nous allons.
Vous n'allez pas
rater
ça quand
même. Bah non, mais on va être obligé de conserver.
Une jolie petite pommade de rien qui coûtait rien, que
oui,
le pharmacien
vrai.
Vous donnait.
C'est
ma
vrai.
Maman me mettait. Maintenant, on dit non, monsieur.
Mais non, parce qu'elle ne rapporte pas assez.
Ah oui, ben bah voilà.
Voilà, oui,
c'est
oui,
vous
mais
qui dit, mais, hein,
mais, mais je pourrais vous trouver quand même peut-être une solution.
Ah, chouette. Ah,
oui.
Merci beaucoup.